Je vous remercie pour vos appels téléphoniques, je vous remercie pour vos SMS, je vous remercie pour vos mails, je vous remercie pour vos prières, je vous remercie pour avoir gardé les chiens pour que mon mari puisse venir me voir. Ça m'a porté. Ça m'a porté énormément et on s'aperçoit que la vraie famille de Dieu, elle est là. Elle est là dans les difficultés, elle est là dans les joies, mais elle est là dans les difficultés aussi parce que malgré la difficulté, ben on se sent en paix, on se sent en sérénité. C'est pas facile. C'est pas facile quand on traverse des épreuves. Hein. C'est plus facile à dire qu'à vivre, mais on se sent porté. On se sent aimé. Et ça, c'est important. Et puis, je voulais vous dire aussi que celui qui enseigne, il s'enseigne soi-même aussi. Il n'est pas au-dessus des autres, il n'est pas mieux que les autres. Il vit la même chose que les autres à tout moment. Donc ça c'est important aussi de le savoir, celui qui enseigne s'enseigne lui-même aussi. Est-ce qu'un jour il vous est arrivé de vous poser la question « Qui suis-je ? Est-ce que ma vie a un sens ?» La crise de la quarantaine fait souvent poser cette question, la crise de la cinquantaine, la crise de la soixantaine, enfin bref, à un moment donné, tout être humain peut être amené à se poser ce type de question. Alors qu'est-ce qu'on répond quand on nous pose la question « Qui es-tu ?» On répond « Je m'appelle Emmanuelle Goethal », mais ça c'est son nom. « Je suis enseignante », mais ça c'est sa profession. « Je suis de nationalité française », ça c'est sa nationalité. « Je suis évangélique, baptiste », c'est sa dénomination. On pourrait y mettre aussi des caractéristiques physiques. « Je suis grand, beau, mince ». Sont des caractéristiques. Mais alors, quoi répondre ? L'apôtre Paul nous disait, dans 2 Corinthiens 5, 16, « Nous ne connaissons personne selon la chair. » Ce qui veut dire que nous ne connaissons personne selon l'œil humain, ce qu'on voit de l'extérieur. On peut aussi rencontrer des personnes qui, lorsqu'on leur pose la question, répondent par une qualification. « Je suis quelqu'un de bien, j'ai une belle maison, j'ai une belle famille, j'ai un compte en banque bien rempli. » Ou alors l'inverse. Je ne suis pas quelqu'un de bien. Je ne fais rien de bien. J'ai pas de travail. J'ai pas de famille. Rien ne va plus. Et j'ai tout le temps des misères. Il m'arrive tout le temps quelque chose. Tout être humain peut être amené à poser la question sur son identité à un moment donné. Tout être humain peut être amené à se poser la question « Quel est le sens de ma vie ?» Alors vous savez que quand je prépare des prédications, souvent j'aime bien avoir des témoignages qui soit réel. J'aime pas que ce soit quelque chose que j'ai lu ou quelque chose que j'ai entendu. J'aime bien les vivre. Alors lundi matin, quand je suis partie à la pharmacie, j'ai dit « Oh Seigneur, s'il te plaît, tu vois ma prédication, tu vois que ça part sur l'identité, le sens de la vie. Donne-moi quelque chose que je pourrais vivre, donne-moi un exemple concret que je pourrais vivre. » Et vous savez que le Seigneur, il nous fait vraiment des surprises. Des fois, il peut répondre rapidement. Très rapidement, trop rapidement peut-être aussi. Je suis arrivée à la pharmacie et une heure plus tard, ma préparatrice me dit « Je voudrais vous voir. » Ah, en général, c'est souvent pour des problèmes, c'est jamais pour des choses qui vont bien. Donc je lui dis « Bah oui, venez, il n'y a pas de souci. » Et là, elle me dit « Vous vous souvenez, il y a un mois et demi, j'étais vraiment pas bien et vous avez prié pour moi. » Je lui dis oui, en effet, je m'en souviens très très bien. Vous étiez, je lui ai pas dit vous étiez au fond du gouffre, mais je la trouvais dépressive, pas bien, elle pleurait, ça n'allait pas. Et c'est vrai que j'ai posé mes mains sur elle, j'ai prié pour elle. Elle me dit, je sais pas ce que vous avez dit, moi non plus, je me souviens plus, mais il s'est passé quelque chose dans ma vie. Ah, je voudrais donner un autre tournant à ma vie. Je me pose beaucoup de questions sur ma foi, mais aussi sur mon existence, et je voudrais quitter la pharmacie. Là, j'ai dit, Seigneur, je ne m'attendais pas à cette réponse-là, et ce n'est pas du tout... Sur le moment, je me suis dit, ce n'est pas une bonne nouvelle. Alors, bon, évidemment, on peut pas retenir les gens contre leur volonté, donc je lui ai dit, bah, ok, on va voir comment on peut faire, mais ce n'était pas vraiment une bonne nouvelle. C'est un exemple concret que le Seigneur m'a donné. Faut-il en arriver de tout ça à une formule toute faite qui nous définit, du style « le succès égale bonheur » ou « le désespoir » ou « l'échec égale désespoir » ? Dans le succès, on peut tout y mettre, ce que je vous ai dit tout à l'heure, la belle voiture, la famille, le compte en banque. Et dans l'échec, on peut y mettre toutes les misères possibles, tout ce qui ne va pas. Donc, conclusion, une vie sans réussite et une vie qui n'a pas de sens. Vous êtes d'accord avec ça? C'est une drôle d'équation, n'est-ce pas? N'existe-t-il pas une autre équation? Qui dirait que tout le monde a exactement les mêmes chances d'avoir une vie épanouie, d'avoir une vie qui a du sens? Pourquoi? Parce que l'équilibre et le sens de la vie ne découlent pas de ce que l'on a ou de ce que l'on n'a pas, mais de ce que l'on fait ou ne fait pas, de ce que l'on est ou n'est pas. Nous connaissons tous des histoires de gens célèbres qui ont la richesse, le succès, la gloire, Dalida, Mike Brandt, et pourtant ils se suicident. Pourquoi ? Parce qu'il leur manque leur identité, leur réelle identité. Alors c'est vrai, faut-il toute une vie pour faire un bon professeur à condition de vivre au-delà de la 100e année, mon ami, oui. Oui. La seule équation qui fonctionne dans ce monde et dans le royaume de Dieu, c'est moi plus Christ, entouré par le Saint-Esprit, égale une vie équilibrée et une vie qui a du sens. Job 22-21 nous dit « Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix, tu jouiras ainsi du bonheur. » Mais le bonheur n'est-il pas le reflet du fruit de l'esprit ? La paix, la joie, la bénédicité, etc., etc. Il y en a 9, mais surtout l'amour. « Je suis le cep, dit Jésus, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » J'insiste sur cette phrase. « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et moi, je voudrais vous faire une révélation ce matin. Ou peut-être pas, peut-être que ce n'est pas une révélation. Je voudrais vous dire que vous êtes des personnes équilibrées. Vous possédez une vie qui a du sens. Car nous sommes enfants de Dieu. L'espoir lumineux de notre Père Céleste. L'espoir lumineux de notre Père Céleste. Elle est belle cette phrase-là, elle ne vient pas de moi. Encore faut-il en avoir conscience. Encore faut-il se l'approprier. Ma véritable identité, c'est mon papa et Dieu. Mon grand frère et Jésus. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et ça, c'est vrai. Alors si l'équation est moi plus Christ, entouré du Saint-Esprit, égale une vie équilibrée, une vie qui a du sens. Si notre identité en Christ est la clé de l'équilibre, êtes-vous prêt à saisir cette clé? Alors je vous entends au fond de la salle qui est en train de me dire « Oui, mais Nathalie, c'est pas si facile. Sinon, pourquoi tant de chrétiens ont-ils du mal à reconnaître leurs valeurs et à grandir spirituellement ?» Bonne question. Je n'ai pas dit que c'était facile. Je dirais même que sans l'aide du Saint-Esprit, c'est impossible. C'est totalement impossible. Je vais vous raconter une autre anecdote. Durant cette période de pas bien, de surcharge, ce qu'on peut mettre maladie, etc., j'ai dit « Ah, Dieu seul me suffit. Dieu est mon essentiel. » C'est souvent ce que je dis d'ailleurs, « Dieu seul me suffit. » Mon mari dit que je suis addict à Jésus. Et Dieu m'a repris. Ah bon, Nathalie, Dieu te suffit, je te suffis. Alors explique-moi pourquoi tu es incapable de rester plus de 30 minutes tranquille dans le calme et la sérénité avec moi. J'ai été méchamment reprise là. Hein. Pourquoi n'es-tu pas capable de rester plus de 30 minutes dans le calme et la sérénité avec moi? Puisque tu es mon papa, puisque je suis ta fille, je dois être bien avec toi, dans le calme et la sérénité. Pourquoi ? Parce que je me laisse tromper par l'ennemi, par le menteur qui me dit que si ma maison n'est pas en norme, si mon travail n'est pas fait, si je ne suis pas bien organisée, rien ne va plus. Rien ne va plus dans ma vie. Je me laisse tromper. Le premier Adam nous a confié un héritage négatif à cause de la chute, du péché. Notre relation a été brouillée avec Dieu. Il y a de la friture sur la ligne. On n'entend plus très bien. Alors, Jésus est venu. Il nous prend par la main. Il fait le ménage un petit peu sur tout ça. Oh, enlève-moi tous ces mensonges. Oh, enlève-moi toutes ces croyances. Enlève-moi, gomme tous ces schémas qui sont ancrés dans ta tête. Et viens, je te ramène au Père. Et il nous met main dans la main avec Dieu pour que nous puissions vivre une nouvelle vie, une nouvelle identité en tant qu'enfants de Dieu. Jésus est mort pour nous sur la croix afin que nous vivions. Jésus a fait ce sacrifice incroyable. Alors, est-ce que nous ne devons pas chasser ces mauvais raisonnements de notre tête ? Est-ce que nous ne devons pas enlever ces schémas tout faits de notre tête ? Du style, j'y arrive pas. Alors on échoue. Et si on échoue, forcément, on n'y arrive pas. Et c'est un cercle vicieux. Alors on pêche davantage. Et on pêche davantage et on se culpabilise forcément parce qu'on n'y arrive pas. Quel en est le résultat de tout ça ? La crainte est le résultat de la chute, la peur. On a peur de tout. On est sans cesse dans l'angoisse. La honte est le résultat de cette chute et la culpabilité. Et Dieu ne veut pas ça. Jésus est mort en nous enlevant la honte, la peur et la culpabilité. Tout cela, mes frères, mes sœurs, ce sont des émotions. Ce sont des sentiments. Les sentiments, les émotions ne produisent pas de bons comportements. À l'inverse, les bons comportements produisent de bons sentiments. À vouloir tout contrôler, souvent on ne contrôle plus rien du tout. En psychologie, le schéma il est classique. Les pensées conduisent à des émotions, les émotions à des actions ou des comportements. Les pensées conduisent à des émotions, les émotions à des comportements. Ça, c'est le schéma classique en psychologie. Encore une petite anecdote. Jeudi, une personne m'a dit « Je vais faire ce que tu m'as dit depuis des mois et des mois et que je n'arrivais pas à faire. Je vais lâcher prise, ne plus rien essayer de contrôler, arrêter d'être, de vouloir être parfaite pour Dieu parce que ça me décourage, parce que je n'y arrive pas. » Et donc, ça produit en moi de la tristesse, de la colère et de la culpabilité. Eh bien oui, c'est ce que Dieu nous demande, lâcher prise. Arrêter de vouloir être parfait. La perfection n'est pas de ce monde. Et seul le Saint-Esprit peut travailler en nous pour nous amener à la sanctification. Je vous donne un exemple. Lorsque Caïn présente son offrande à Dieu, Dieu n'y prêta pas attention, ce qui mit Caïn en colère. Genèse 4:5 nous dit « Caïn était furieux et déprimé. Alors l'Éternel lui dit « Mais pourquoi es-tu en colère ? Pourquoi ton visage s'assombrit ? Si tu agis bien, tu le relèveras. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte. » Que s'est-il passé avec Caïn ? Caïn n'a pas daigné apporter les meilleures offrandes. Son comportement n'était pas bon. Et il le savait. Donc ça a produit un sentiment de tristesse. Son visage s'est assombri. Et c'est pour cela que Dieu n'y a pas prêté attention. Au contraire, Abel a choisi le meilleur de ses agneaux, le premier-né, sans tache, sans défaut. Il avait un bon comportement et il l'a apporté à Dieu. Et forcément, ça plut à l'Éternel. Son comportement était bon. ce qui a produit un bon sentiment. Il est arrivé près de Dieu avec joie. Le mauvais comportement de Caïn donnait suite à des mauvais sentiments. N'est-il pas temps de casser toutes ces choses ? N'est-il pas temps de casser les schémas que l'on a et de changer de lunettes, de regarder avec les lunettes de Dieu, de nous voir tels que nous sommes ? Si nous sommes en règle avec Dieu, si nous n'avons rien de caché sous les tapis, ne pouvons-nous pas vivre en harmonie avec lui ? Tout simplement en harmonie avec lui ? Alors il y a encore une question dans le fond de la salle. Quel est l'élément déterminant de l'harmonie avec mon Père céleste ? Merci pour cette question. Mais la même que celle avec notre Père terrestre ? L'obéissance ? Les enfants l'ont très vite compris, ça. Quand ils obéissent à leurs parents, ils voient bien que dans la famille, tout bat son plein. C'est la joie et la gaieté. Et inversement, quand ils désobéissent, ils voient bien qu'il y a une vie qui est pénible, triste, agacée, énervée. Ça irrite tout le monde. Il en est de même pour Dieu. Lors de ma nouvelle naissance, je suis devenue membre de sa famille. Je suis enfant de Dieu. Je partage une relation éternelle avec lui. Ça, c'est acté. C'est inscrit dans le livre du ciel. Romains 8, 35 nous dit « Qui nous séparera de l'amour du Christ ?» Rien ne pourra nous séparer de l'amour du Christ. Bien sûr, l'harmonie entre Dieu peut être perturbée. Et en général, la vie devient pénible, elle devient difficile. Ça fait naître un sentiment que vous n'expliquez pas, mais c'est un sentiment de tristesse, un sentiment de pas bien, on va dire. Mais des fois, il faut arrêter de se flageller. Il faut arrêter de se culpabiliser. Tout simplement, obéir et dire à notre Père céleste, parce qu'on l'aime, que l'on veut vivre en harmonie avec lui, parce qu'on veut lui plaire, on lui obéit. Ce n'est pas une contrainte. Dimanche prochain, c'est la fête des mères. Si vous avez envie de plaire à votre maman, vous lui faites un cadeau, ce n'est pas une contrainte. Ou vous lui obéissez, ce n'est pas une contrainte. Eh bien, c'est pareil pour Dieu, c'est ni plus ni moins, c'est simple en fait. Ce n'est pas une contrainte d'aimer Dieu et de lui plaire. Il faut juste se laisser guider. Alors encore une question, mais vous en avez des questions aujourd'hui. À quoi devons-nous consacrer nos efforts pour atteindre la croissance et la maturité spirituelle pour que notre vie ait du sens ? Ma réponse va peut-être vous surprendre. Et j'accepte que vous veniez me voir à la fin du culte. Nous ne devons pas nous en préoccuper. Nous ne devons pas nous préoccuper de notre relation avec Dieu, car nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons rien faire pour l'améliorer. Je vous ai dit, la perfection n'est pas de ce monde, sauf si vous demandez au Saint-Esprit de vous aider. Sauf si vous demandez au Saint-Esprit de vous aider dans notre relation avec notre Papa céleste. C'est le chemin de la sanctification. C'est le Saint-Esprit qui agit, pas nous. Pas nous. Par contre, ce qui est de notre capacité, c'est de croire en notre réelle identité. Nous sommes enfants de Dieu, ni plus ni moins. Nous ne pouvons pas le devenir davantage parce que c'est acté à la nouvelle naissance. C'est inscrit dans le livre du ciel. Nous ne pouvons rien faire pour l'améliorer, c'est le Saint-Esprit qui agit. C'est l'harmonie de notre relation avec Dieu qui est de notre capacité. Lui plaire et lui obéir. Lui plaire et lui obéir, simplement. Nous avons besoin de rétablir notre relation personnelle avec lui dans l'amour et dans la sincérité. dans l'amour et dans la sincérité. Trop de chrétiens sont tristes. Pourquoi ? Parce qu'ils pensent sans cesse ne pas faire suffisamment, ne pas faire bien. Laissons-nous guider. Vivons simplement en harmonie avec Dieu. Vivons simplement en harmonie avec lui, avec l'aide du Saint-Esprit. Laissez-vous guider par le Saint-Esprit. Et je crois que notre croissance et notre épanouissement s'acquierront simplement parce que nous sommes des enfants de Dieu. Ça, c'est notre identité. Alors, l'équation est-elle beaucoup plus simple que celle-ci ? J'aurais été nulle, moi, en maths. Moi plus Christ, avec l'aide du Saint-Esprit, égale enfant de Dieu. Alors croyons à notre identité et approprions-nous-la. Car notre identité nous amène à aimer Dieu davantage. Forcément, je suis enfant de Dieu, j'aime mon Père davantage. Elle nous amène aussi à nous aimer nous-mêmes, puisqu'il n'est pas dit dans la Bible que nous sommes faits à l'image de Dieu. Si nous nous voyons aimés dans le regard de quelqu'un, est-ce que nous ne nous sentons pas aimés ? Quand un jeune couple se rencontre, la jeune fille ne se trouve pas-t-elle belle dans les yeux de son bien-aimé ? Parce que lui la voit belle. Ne se sent-elle pas aimée dans les yeux de son bien-aimé parce que lui l'aime ? Pour Dieu, c'est pareil. Et notre relation nous amène à aimer les autres davantage. Parce que si je suis remplie d'amour, mais je peux en donner à tout le monde. Et ces trois choses ne résument-elles pas les 10 commandements ? Quels que soient les 10 commandements, si vous mettez l'amour, vous avez tout. Dans Corinthiens 13, il bien dit que si je n'ai pas l'amour, je n'ai rien. Hébreux 4, 16 nous dit « Approchons-nous donc du trône de grâce avec une grande confiance, avec une libre et joyeuse assurance. Dieu nous témoignera sa bonté et sa grâce et nous obtiendrons le secours nécessaire au bon moment. » C'est clair. Approchons-nous, quoi. Mais allô, approchons-nous. Approchons-nous, sinon on entend moins bien. Approchons-nous de la parole du trône de grâce. Pardon. Et dans le 10-22, il nous dit « Allons donc à lui d'un cœur droit et sincère, avec la joyeuse assurance que donne la foi. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, la parole, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. » Jean 1-12. « Nous savons, frères et sœurs aimés, qu'il vous a choisi, 1 Thessaloniciens 1,4. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, Romains 8, 17. Mais à celui qui s'attache au Seigneur est un seul esprit avec lui, 1 Corinthiens 6, 17. Alors je vous lance un défi. Je vous lance le défi que je me lance aussi à moi-même, parce que je vous ai dit que celui qui enseigne est enseigné aussi. À partir de maintenant, apprenons à prier en commençant nos prières par « Papa » ou « Père ». C'est plus difficile que de dire « Seigneur, mon Dieu, Papa », parce qu'il y a quelque chose de personnel dans le nom. Il y a quelque chose qui touche le cœur quand on dit « Papa ». Jésus nous a-t-il pas appris à dire notre Père pour commencer la prière qu'il voulait que l'on fasse dans notre chambre, notre Père ? Approprions-nous notre identité afin que nous soyons réellement enfants de Dieu avec un véritable héritage. Et je crois que Christian et Marcel nous ont donné l'exemple de cet héritage. Il y a des moments où il faut prendre autorité sur les choses. Il y a des moments où il faut se laisser enseigner Il y a des moments où il faut se laisser corriger, parce qu'un père qui aime corrige aussi, comme il l'a fait avec moi. Il y a des moments où il faut se laisser aimer, juste se laisser prendre dans des bras forts et puissants, les bras d'amour d'un papa qui sert son enfant et qui va juste lui dire « Je t'aime. Je t'aime parce que tu es mon enfant et je veux que tu viennes à moi. » Tout simplement. Sans honte, sans culpabilité, sans chercher à en faire trop dont tu n'es pas capable. C'est moi qui t'amènerai au capable de. Laissons-nous simplement aimer, en lui obéissant et en voulant lui plaire. Alors si je vous repose la question maintenant, qui êtes-vous? Qu'allez-vous me répondre? Enfants de Dieu, je vous remercie de votre écoute.